Question d'islam par Ghalib Benchir. Bonjour, vous êtes bien sûr Question d'islam et aujourd'hui je reçois Isabelle Baudis avec une grande joie.
Merci beaucoup.
Pour parler de l'astre de l'Orient, de l'étoile d'Orion, d'Om Kalsoum, le rossignol du Delta, elle a beaucoup de surnoms, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission ensemble, à la fois pour parler d'une femme, d'une icône, d'une grande artiste, pour parler de musique, de chant, de féminisme, et tout ça en contexte islamique et d'expression arabe.
Absolument passionnant. Parce que déjà, elle a une carrière très très longue. Donc si vous voulez Om Kalsoum, ça peut résumer presque un siècle de politique ou de vie de l'Égypte, du monde arabe, de musique arabe. Alors évidemment, ce 20e siècle a été extrêmement riche, a vu énormément de bouleversements. Et elle a eu l'intelligence de savoir, de prendre tous ces mouvements sans jamais se renier.
Bien, nous ferons connaissance au fur et à mesure que le temps s'écoule de cette grande dame. Déjà pour ponctuer sa trajectoire de vie, il y a une incertitude quant à sa date de naissance. On ne sait pas si c'est 1898 ou plutôt 1908. En revanche, elle est décédée en 1975.
Voilà, malheureusement, on connaît toujours la date de la mort. Bon, ça c'est un phénomène assez fréquent. Et elle est star, donc tout autour d'elle, toute sa vie est alimentée par des légendes, des histoires. Et j'ai tenu aussi à rajouter toute cette dimension qui prouve combien la femme était importante. Donc j'ai nourri des témoignages véridiques avec toutes les légendes aussi qui habitaient son personnage.
Et c'est comme ça qu'on parle d'une destinée hors du commun concernant Om Kalsoum. Déjà le prénom Om Kalsoum.
Alors le prénom Om Kalsoum, donc évidemment c'est le prénom d'une des filles du prophète. Elle serait née évidemment dans la nuit magique de la nuit de la Providence.
Ou la nuit du destin.
Ou la nuit du destin. Sa mère serait Shérifa. Et elle est née surtout dans une famille, elle était fille d'imam, donc dans une famille très religieuse, très pauvre, dans le delta du Nil. Et en fait, elle s'est servie et elle a forcé tous ses destins qui ne la prédestinaient pas à devenir la star incontestée du XXe siècle, mais je pense aussi du XXIe.
Chère Isabelle Baudis, si vous voulez bien qu'on explique aux auditeurs qu'est-ce que c'est que la nuit de la Providence ou du destin, c'est la fameuse 27e nuit ou la nuit du 26e au 27e jour durant le mois de Ramadan. Qui a une
signification particulière, puisque Gabriel, le beau Gabriel, descend, écoute et peut-être exauce tous les souhaits.
Et ce qui n'était pas ou était le cas de son père, puisqu'il attendait la naissance d'un garçon.
Évidemment, évidemment. Alors ça, c'est une histoire assez classique dans ce monde-là. Évidemment, on préfère un garçon, on attend un garçon. Donc là, arrive une fille. Elle sera extrêmement aidée, poussée par sa mère, mais aussi extrêmement nourrie par le Coran, par la psalmodie. Et elle dira toute sa vie que sa meilleure école de vie, mais aussi de chant, ça aura été le Coran.
Et très vite, son père passe sur sa déception. Il était ravi de la voir.
Bien
c'est
sûr.
C'est le troisième enfant.
C'est ça. C'est le troisième enfant. Donc ils sont très pauvres. La famille vit d'une façon très précaire. Les femmes vont ramasser le coton et le père, pour arrondir ses fins de mois, officie dans les cérémonies de mariage, de baptême. Et la mère se rend compte que la petite Oum Kalsoum a une voix d'or. Mais simplement, comment faire chanter une fille dans une petite troupe, dans un petit village du delta du Nil au début du XXe siècle? Et évidemment, la mère va y arriver.
Donc, En la déguisant.
Donc, pudeur oblige, pudeur qu'elle conservera toute sa vie. Elle la déguise comme son frère, c'est-à-dire elle est habillée en petit bédouin avec un keffieh sur la tête et elle chante. Et on ne sait pas très bien quel est son sexe.
Oui, jusqu'à l'âge en gros de 16 ans, dit-on.
C'est ça, c'est ça. Et elle commence à se produire ses premiers concerts. Elle sera toujours habillée en homme. Après, quand elle prendra de l'assurance, donc quand elle s'émancipera un peu de son éducation campagnarde, elle considérera que la tenue n'est pas l'important, qu'on peut rester modeste et chanter sans devenir une dépravée, puisque le Caire était quand même une société où les cabarets, les casinos, les danses du ventre étaient légion. Et donc elle voulait énormément se démarquer de cette catégorie de chanteuse. Elle voulait pas être assimilée à ce genre de chanteuse. Donc elle voulait garder ce côté rigoriste. Et elle s'est rendue compte qu'en étant habillée en femme et d'une façon modeste, on pouvait très bien le faire.
Après, pour aller un peu vite peut-être, elle part au Caire.
Elle part au Caire. Alors évidemment, sa vie est ponctuée de coups du destin ou du coup du sort, on dira, comme toutes les stars. Évidemment, elle rencontre dans le Delta le grand maître de musique qui l'entend chanter et qui dit aux parents, vous avez un trésor, ne la laissez pas s'enfermer dans cette campagne. Je veux être son maître, je vais lui apprendre l'art du chant. Et les parents acceptent.
Ils étaient réticents,
mais donc ils acceptent. Et elle part au Caire, accompagnée évidemment de son père, l'imam, et de son frère. Donc elle arrive dans les années 10 au Caire. Elle est évidemment abasourdie de... Elle ne connaît pas la ville, elle ne connaît pas la civilisation, elle ne connaît pas la foule. Donc elle est étonnée de tout. Mais mais bien sûr, comme elle est très intelligente, elle apprend très vite, elle se sert de tout, elle devient élève de son maître, donc le maître qui transmet à une élève fille, déjà une première prouesse. Elle commence à chanter, donc habillée en femme. L'industrie du disque commence à naître, elle commence à enregistrer, et là, le succès commence à être incroyable.
Tout de suite, fulgurant,
en chantant des... Donc, elle se démarque des autres, elle chante des chants classiques, elle reprend les grands poètes classiques, donc elle se démarque des chansons légères qui étaient à la mode à l'époque, et elle arrive à se faire déjà une image très différenciée des autres.
À ce stade-là, elle est sur sa vie personnelle, comment les choses se présentent-elles?
Alors, elle est très chaperonnée par son père et son frère. Elle est très tenue par son éducation. Mais elle se rend compte très vite, ce que je vous disais pour les vêtements, et ça va dans tous les domaines, elle se rend compte qu'il n'y a pas de honte et il n'y a pas de péché à aller voir ailleurs et surtout à apprendre. C'est-à-dire qu'elle va voir les poètes classiques, elle s'intéresse aux soufis, elle dit que elle se rend bien compte qu'en additionnant le savoir et les techniques, on peut ne pas se renier. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'elle n'a pas eu son éducation et qu'une éducation religieuse. Elle a été juste au Koutab. Et donc, une école coranique. Elle sent la force de l'apprentissage, du savoir, et la force aussi du bouillonnement du cœur, qui est un pays quand même qui vit sous domination étrangère. Donc elle sent les ferments de révolte, de révolution. Elle sent que le Caire est une ville en foisonnement, mais qu'elle peut se servir de ça et tout additionner.
Alors à propos du savoir, de sa formation, de son éducation, on apprendra plus tard qu'elle parlera français.
Oui, elle parlera français. Alors évidemment, l'histoire, le conte de fées continue. Donc, elle est formée par un grand maître de musique et elle rencontre deux hommes qui vont lui vouer sa vie. Donc, Ahmed Rami, le grand poète.
Qui restera amoureux d'elle, sa vie durant,
qui écrira toute sa vie durant des poèmes d'amour et qui aura un grand rôle d'apprentissage puisque lui avait vécu à Paris, avait appris le français, donc il lui parlera en français, mais il l'éduquera aussi beaucoup, par exemple, c'est lui qui lui fera chanter Omar Khayyam, c'est lui qui lui fera chanter l'ivresse. Et c'est là aussi où elle se servira de quelque chose qui est quand même, qui appartient au mystique et qui est magnifique, c'est-à-dire qu'elle se servira de cet amour humain ou divin qui est en fait la même chose. Et donc le peuple ne sait pas très bien si elle chante pour le bien-aimé ou la bien-aimée, ou si elle chante pour Dieu. Mais pour elle et avec son bagage, c'est exactement pareil. Et cette ambivalence est formidable, puisque chacun pourra y trouver ce qu'il cherche.
Et Ahmed Rami va lui distiller par strophe uniquement la poésie pour continuer à la voir, prolonger le
C'est
plaisir
ça.
De la voir.
Alors elle était un peu démoniaque, on peut dire. Elle était quand même très chef dans l'âme. Donc elle a deux hommes qui sont amoureux transis, un poète très instruit, un musicien. Elle leur octroie un jour à chacun. C'est-à-dire qu'il y a l'homme du lundi, l'homme du mercredi. Donc déjà, on sent le caractère. Elle les malmène, elle les rudoie pour qu'ils donnent encore plus. Donc elle sent qu'elle doit être forte. Donc évidemment, on a beaucoup dit de son caractère un peu tyrannique. Mais comme toutes les femmes hors du commun, est-ce qu'elle avait vraiment le choix? Elle était obligée. Donc elle a voué sa vie à son art, à la musique. Évidemment, elle avait un caractère très fort. Parce que c'était pas facile d'exister en étant ce qu'elle était, et elle devait y arriver. Et elle y arrivera comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle devient chef d'une lignée musicale, et elle devient chef tout court, quoi.
Alors, avant de poursuivre sur son art en tant que tel et sa production artistique, sa vie, tantôt on l'appelle Madame Om Kalsoum, tantôt Mademoiselle. Alors, mariée, pas mariée.
Oui, alors sa vie privée.
Qu'est-ce que c'est que ce médecin?
Bon, alors évidemment, elle garde toujours de sa formation de paysanne et de fille très religieuse une pudeur extrême quant à sa vie privée. Alors évidemment, elle était très courtisée. On disait que pour chanter l'amour aussi bien qu'elle, évidemment, elle l'avait connu. Elle s'est très peu livrée sur ses sentiments personnels. On lui a prêté moult fiançailles et amoureux. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a dit, et ça c'est, on la cite, elle a dit que quand même, sa vocation c'était son art et qu'elle s'était mariée avec son art. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle s'est mariée très tard, elle a été assez malade et elle a épousé son destin. Donc comme évidemment que toute égyptienne se respectant, elle était très drôle et elle se moquait de tout, on n'oublie pas les fameuses noctas, elle disait évidemment je me fais faire une piqûre toutes les semaines par un homme, donc je peux bien l'épouser. Donc voilà
parce
quoi.
Elle a épousé son médecin et
son
nocta
médecin.
Étant une blague
c'est
propre
ça.
aux Égyptiens,
c'est-à-dire l'humour pour se moquer qui existe toujours et l'humour pour survivre. Moi, je pense que c'est assez commun à ce monde arabe, qui est si méconnu ici. C'est-à-dire que quand même, ce monde, pour résister, se sert beaucoup d'humour.
Alors, pour revenir au caractère, au climat, au contexte même islamique, c'est que la réception de sa voix, de ses chants, a été très vite bien agréée, bien acceptée, avec un engouement réel.
Tout à fait, tout à fait. Alors, elle prend les meilleurs, évidemment. Elle a ces hommes qui sont très forts, qui produisent pour elle. Elle leur donne des instructions, elle leur demande d'écrire des choses plus faciles pour le peuple. Elle se met complètement en adéquation avec son public et elle se sert de tout. Donc, elle enregistre des disques. La radio naissant, elle se dit que ça va être un formidable phénomène de propagande et de propagation. Donc la voix des Arabes, qui est la radio égyptienne, devient beaucoup sa voix. Elle instaure des concerts à date fixe. Elle aime les dates fixes, elle aime le rendez-vous. En fait, elle instaure un star system, quoi. Donc elle sait que elle ne doit pas beaucoup se montrer, qu'elle doit se faire rare, se faire désirer. Elle prend tous ses ingrédients. Et donc, elle devient la star. Alors évidemment, la concurrence est très grande. Hein. Évidemment, il y a énormément de concurrence. Mais les autres ne jouent pas sur le même registre. Donc les autres jouent plus dans la frivolité. Il y a des chanteuses qui sont très talentueuses, mais qui ne jouent pas dans ce registre si varié et subtil qu'elle. Donc elle gagne comme ça. Et puis après, elle se sert aussi beaucoup de la politique, ou de tous les mouvements nationalistes, donc elle joue absolument sur tous les tableaux. Elle sent que le peuple a besoin de liberté, que les femmes ont besoin de liberté, donc elle se sert du féminisme arabe, qui est un mouvement un peu oublié, surtout aujourd'hui, mais qui a bel et bien existé. Les femmes...
Et très tôt même.
Et très tôt, dans les années 20, les femmes disaient... Nous n'existons pas, alors que nous représentons la moitié des gens. Les femmes instruites lançaient des journaux. Oda Chouraki avait un journal et disait aux femmes, prenons notre destin. Nous sommes entravés par le voile, qu'elle disait, qui emprisonnait les femmes. Et donc, elle faisait des manifestations sur des bateaux où elle jetait leur voile.
Oda Chouraki a participé au premier congrès féministe à Rome et revenant de Rome par bateau, elle emprunte le train de Port Saïd au Caire et en sortant du train, elle se dévoile avec ses amis et Om Kalthoum est
voilà.
Son amie.
Et donc, évidemment, on est dans un mouvement pré-révolutionnaire et comme on le sait bien dans les mouvements pré-révolutionnaires, on sent que les femmes peuvent être utiles. On se sert un peu des femmes aussi. On se dit, on va pas se couper de cette moitié de la population. Donc, en fait, c'est une tentative assez politique, quoi, de se servir des femmes et parfois après de les oublier. Donc, les mouvements nationalistes se disent, évidemment, on se sert, on les accompagne. Et elle, Oum Kalthoum, qui est dans ce foisonnement, elle dit, il faut que j'accompagne tout ça, il faut que je me serve de tout ça. Et elle sent que le féminisme, le nationalisme est quelque chose de fort, qu'elle va évidemment pousser, aider. Et donc, elle va devenir également aussi, en plus de la chanteuse, en plus de la musulmane
convaincue,
elle va devenir aussi une nationaliste et une femme politique.
Oui, proche du Raïs.
Alors, évidemment.
Notamment Nasser.
Notamment Nasser. Donc, évidemment, elle appuie tous ces mouvements de nationalistes et officiers libres. Elle avait aussi chanté le roi Fouad, ce qu'on a pu lui reprocher. Et là, il y a des histoires très drôles, puisque quand Nasser a pris le pouvoir, le président de la radio a interdit Oum Kalsoum. Et c'est Nasser en personne qui appelle le directeur de la radio en lui disant « Mais est-ce que, imbécile, tu l'as interdit, mais est-ce que le soleil ne se levait pas aussi avant ?» Et elle s'est toujours défendue en disant « Est-ce que je suis une grande ?» puisqu'elle était convaincue quand même de son poids. « Je suis une grande et donc je chante mon pays. Mais donc j'accompagne les dirigeants de mon pays puisque je sers aussi mon pays. »
Pour elle, le triptyque était Dieu, l'amour et la patrie.
Tout à fait, tout à fait. Et elle a été complètement fidèle à ce triptyque en ne cédant pas aux sirènes de la mode. Elle est restée complètement fidèle à ses origines, à ce qu'elle croyait, en croyant fermement que le monde arabe pourrait être grand grâce à la culture, grâce à la musique, grâce aux femmes et grâce aussi à cette union. Elle trouvait que le monde arabe péchait beaucoup par cette désunion et donc elle a appuyé tous ces mouvements de réunion. Et c'est vrai qu'à une époque, on a pu rêver de ce monde arabe qui pouvait s'unir.
Elle disait « Nous sommes arabes, nous nous aimons, mais nous sommes désunis, je ne le comprends pas. »
Voilà. Voilà.
Nous sommes sur France Culture, à l'émission Questions d'Islam, avec Isabelle Boudis, journaliste, écrivain, auteur, éditrice. Et aujourd'hui, nous parlons de l'astre d'Orient, de l'étoile de l'Orient, qu'est Oum Kalsoum, pour parler de musique, d'art, de chant, d'intelligence et d'intelligence féminine.
Bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle est morte il y a plus de 40 ans. Et ce qui m'a beaucoup frappée, si vous voulez, elle était reine, elle était, on l'appelait pharaon aussi, mais aujourd'hui, elle est icône. Et donc, dans ce monde qui manque pas mal d'icônes féminines, elle reste quand même un marqueur et elle continue d'inspirer. Donc, elle est icône et elle est muse. Donc, les artistes se réfèrent à elle. Les artistes de tous les arts. Et donc après la biographie que j'ai essayé de nourrir de témoignages et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer puisque j'ai fait ce travail il y a longtemps, donc j'ai pu voir des gens qui l'avaient côtoyé, qui l'avaient connu et qui m'ont raconté l'Oum Kalsoum du quotidien. J'ai continué à faire un livre d'elle en icône plus iconographique. Parce que ce qui me frappe, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ce monde manque cruellement d'icônes, mais elle reste toujours. Et donc aujourd'hui, Ibrahim Malouf, qui a un succès phénoménal, a quand même fait tous ses improvisations jazzy sur Oum Kalsoum et les mille et une nuits.
Et je rappelle que votre ouvrage, enfin la biographie que vous lui consacrez, est préfacée par Omar Sharif aussi. Isabelle Boudis, voudriez-vous nous parler un peu plus peut-être de ces rivalités et de la concurrence et comment les a-t-elle un peu surpassées? Par exemple, on parle d'une rivalité entre elle et
Asmaan,
la sœur de Farid Al-Atrash.
Alors si vous voulez, on appuie beaucoup, mais si vous voulez, c'était assez le rôle des médias. Quand j'ai fait ce livre, évidemment, j'ai ramené du Caire une caisse de journaux. Évidemment, les unes étaient ahurissantes. C'est-à-dire que on disait, Hasman a détrôné parce qu'elle a mis un vison blanc, Oum Kalsoum avait des plus grosses boucles d'oreilles. Donc en fait, la presse, qui est, on pourrait dire un peu à sensation, attisait ses haines. Et donc, elle sentait qu'elle ne devait pas marcher dans ses combines, si vous voulez. Mais tout le monde parlait qui a eu le plus de succès, qui a vendu le plus de disques, qui a eu le plus d'admirateurs qui lui jetaient des roses à ses
et
pieds.
Et le temps des applaudissements.
Le temps des applaudissements, la durée des concerts. Donc évidemment, on mesurait. Donc je pense que la rivalité a été beaucoup exagérée, que Hasman avait un talent fou, une beauté incroyable, mais que elles étaient pas dans la même,
c'est pas dans le même la registre, même,
c'est pas le même registre, quoi. Il y avait une chanteuse de variété et Oum Kalsoum, évidemment, en additionnant tous ses talents et en se servant de tout, quoi. Oum Kalsoum, elle s'est servie de tout. On n'a pas parlé du cinéma, mais quand elle voit apparaître le cinéma, elle se dit le cinéma est aussi un vecteur pour se rapprocher des gens et qui peut servir mon art et me servir à moi, et me servir mon pays, et me servir l'Égypte. Donc, elle est devenue actrice. Donc, si vous voulez, on n'est pas vraiment... On adore les petites histoires, mais je pense qu'elles ont beaucoup été attisées, quoi.
Oui, avec une filmographie particulière. Mais pour revenir à la... Parce qu'elle dit, je voudrais revenir à la scène, parce qu'il y a une communion avec le public. Elle a une gestuelle particulière avec ce fameux... Mouchoir.
Oui, ce fameux mouchoir dont on a dit aussi des horreurs. Mais elle commençait assise et elle s'est levée. Alors évidemment, elle était le contraire d'une star.
D'une rockstar.
Évidemment, elle n'était pas, elle ne bougeait pas, elle ne dansait pas. Et donc, elle restait assez statique. Et donc, tout son art était dans sa voix et dans sa voix de moduler sa voix, donc de psalmodier, quoi, évidemment. Et là, elle était maîtresse dans cet art-là. Et on raconte que, évidemment, pour calmer son tract, elle avait besoin de toucher quelque chose. Donc, elle avait pris le mouchoir qui est devenu célèbre, puisqu'un grand sculpteur égyptien, pour lui faire un monument en hommage à elle, a fait un mouchoir. Le mouchoir égale au Oum Kalsoum.
Oui, et lequel mouchoir doit être assorti à la robe?
Ah bah évidemment, 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 évidemment.
Alors un mot sur ces lunettes noires.
Alors ces lunettes noires, évidemment, énormément aussi de rumeurs, de petites histoires. En fait, elle a eu une maladie de la thyroïde. Donc ses yeux
sont exorbités.
Donc elle craignait beaucoup la lumière. Et donc, elle a caché. Donc, on croyait qu'elle avait encore rajouté un élément de star system, mais pas du tout. C'était une maladie. Mais donc, tout sur elle ou tout chez elle servait à alimenter cette dimension de légende qui est aussi la marque des très grands, quoi. Puisque tout ce qu'elle faisait devenait une histoire magique. Et donc, dans mon livre, je me suis servi de toutes ces légendes pour fabriquer un personnage de fiction qui raconte toutes ces histoires. Alors, elles sont vraies, elles sont fausses, mais peu importe. Elles la servent, quoi. Elles marquent la dimension du personnage.
Vous avez romancé une partie de sa vie.
C'est ça. Avec un personnage romancé, où je me suis servi de toutes les histoires qu'on racontait sur elle, quoi. Qui sont certainement fausses, ou peut-être vraies. Mais j'ai nourri ce personnage, qui est donc un amoureux qui la suit, qui est pauvre, évidemment, qui est Ahmed le Charbonnier, qui la suit, qui fait semblant d'être un aveugle pour aller à ses concerts, et qui l'aime tellement que quand elle souffre, quand elle est opérée, il lui offre ses yeux, et quand elle est mourante, il lui offre son rein.
Et puis, quelle déception de voir qu'elle ne lui avait pas accepté de partir aux États-Unis.
Bien sûr. Donc, sa vie est nourrie de tout ça, et c'est peut-être la marque des très grandes, quoi.
Elle a souffert de quelques comparaisons qu'elle a tout de suite un peu dédaignées, dit-elle en tout cas, d'Edith Piaf et Maria Callas.
Oui, alors évidemment, elle trouvait que les comparaisons étaient restreintes, puisque elle additionnait tellement de talents. Donc déjà, elle avait du mal avec la musique occidentale et elle trouvait que elle avait d'autres dimensions, quoi. Donc évidemment, elle disait, je suis plus qu'Édith Piaf ou la Calas, puisque j'additionne aussi mon rôle de messagère de l'islam, de patriote, de diplomate du monde arabe. Donc elle trouvait qu'il fallait en rajouter, ce qui est vrai, puisque les autres chanteuses, évidemment très talentueuses, n'ont pas eu ces fonctions qu'elle a tenues, quoi. Elle était vraiment aussi femme politique. Après la guerre des six jours, donc elle décide qu'il faut lutter avec l'Égypte. Et donc elle dit, il faut renflouer les caisses de l'État. Quelle est la chanteuse qui a dit, je vais chanter pour renflouer les caisses de l'État? Donc elle devient messagère de son pays et elle dit, je chante pour en patriote. Et elle vient, et ce qu'a de joli, c'est que le seul pays occidental qu'elle choisit, c'est Paris, parce qu'elle trouve que c'est le pays de l'amour et de la liberté. Et
voilà, ce diptyque amour et liberté, elle va chanter à l'Olympia.
Elle va chanter à l'Olympia.
Le 13 et le 15 novembre 1967.
C'est
un
ça.
Cachet de 200 000 francs de l'époque, francs lourds, et qu'elle verse au gouvernement égyptien. Et c'est sa servante.
Sa servante qui vient de son village, qui dit, évidemment, on mesure le talent à l'argent. Et évidemment, elle dédaigne ça, mais quand même, c'est elle qui aura eu le plus gros cachet.
Et elle dit, mais moi, je chante pendant 3 heures, pendant que les autres ne chantent que 8 minutes.
C'est ça. C'est ça.
Vous le dites vous-même aussi que Marie Laforêt était présente.
C'est ça. Il y avait
au concert.
Il y avait Marie Laforêt. Cet été, on a retracé les concerts mythiques. Il y a eu un papier sur ce concert qui est complètement mythique. Et donc, Mohamed Salmaoui, qui est un grand journaliste, auteur égyptien, était l'accompagné, était l'auteur. Et évidemment, il y a eu des manifestations d'amour et avec un public aussi qui ne connaissait pas la dimension et aussi l'écho que renvoie le public, qui a été complètement surpris par ce concert hors du commun.
Et elle était ivre de bonheur et de fatigue
bien
à l'issue de ces deux concerts. Heureusement que la suite du George V a été d'un certain confort pour elle, mais elle garde un souvenir irrémissible de son passage à Paris.
Oui, oui, elle aimait beaucoup la France, quoi. Donc certainement, Rami l'avait initiée. Elle admirait beaucoup de Gaulle.
Elle lui a écrit un télégramme.
Elle lui a écrit, puisque elle conversait avec Nasser, donc elle se sentait légitime pour, en arrivant dans un pays, envoyer ses hommages, on peut dire, au général de Gaulle, qui lui a répondu pour dire combien il avait goûté tout son patriotisme et dans le son de sa voix et son effort aussi, puisque elle chantait quand même pour les caisses de l'État.
Ce qui lui fait dire à elle que j'ai été reçue en France par le plus humble et le plus grand des Français.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, poursuivons ensemble, si vous voulez bien, Isabelle Boudis, à la fois en croquant ce portrait de l'astre de l'Orient ou l'étoile de l'Orient. Elle revient en Égypte, elle va entamer sa tournée dans le monde
dans
arabe.
Dans le monde arabe, donc une tournée très complètement d'union du monde arabe, hein, et aussi très féministe, quoi. Donc ses voyages
au Soudan, au Maroc,
donc
au Koweït.
Donc où elle demande aux femmes de participer. Toute sa vie, elle rappelle aux femmes qu'elles détiennent la moitié de l'humanité et que, en fait, elles ont leur destin en main. Et c'est toujours utile de regarder ça aujourd'hui, parce que évidemment, on se dit que cette femme qui a réussi à forcer le destin, eh ben, on se dit que aujourd'hui, ça devrait être parfois plus facile, quoi. Donc, c'est aussi un modèle. Et on dit toujours qu'elle a chanté et qu'elle a prévu toute tout ce qui pourrait arriver, puisque évidemment, on lui prête un rôle démesuré. Donc, on se demande aujourd'hui comment elle pourrait réagir à la situation actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle rappellerait aux femmes toujours ce même mot. Prenez votre destin en main, vous êtes la moitié de l'humanité.
Oui, et qui dit moitié statistiquement ne dit ni prééminence pour les uns, ni relégation pour les autres.
Voilà.
Oui, bien entendu.
Voilà.
Elle part à Tripoli, inaugurer en quelque sorte un théâtre construit quasiment pour elle, ou exclusivement pour elle. Et vous le dites si bien, Isabelle Boudis, elle va s'adresser aux femmes en leur disant, pour celles qui étaient encore voilées, dévoilez-vous.
Oui.
Et elles jettent leur voile.
Et elles jettent leur voile. Alors évidemment, elle connaît très bien la religion. Elle sait qu'il ne faut pas confondre le fond et la forme. Et donc elle dit, le fond, je le garde et je le garderai toujours. Et la forme, évidemment, on ne garde pas des choses qui peuvent vous entraver. Surtout si on a le fond. Ce qui compte, c'est le fond.
Et le fond étant pudeur, dignité, honneur, éducation.
Voilà. Et donc, elle a extrêmement bien servi cette chose. Et c'est pas mal de se remettre ça en mémoire. Parce que c'était un temps et c'était une femme qui additionnait sans dire, qui pouvait dire, on prend la modernité, on prend la technique, on prend le bon de ce que peut nous apporter la modernité, en gardant notre âme intacte. Et ce qui compte, c'est bien ça.
Oui, et pour rester dans le registre religieux, on l'a même appelée la religieuse de l'islam, c'est qu'elle va incarner la mystique Rabia al-Adawiya, aussi bien dans les films, que dans une sorte de feuilleton radiodiffusé.
C'est ça. Donc, elle était évidemment très, très mystique. Et ses chants l'étaient aussi. Et donc, évidemment, chanter la mystique Rabia, elle le faisait très bien. Et aussi, elle continuait à servir cette cause des femmes qui pouvaient être des guides. Parce que, en fait, on peut être femme, guide, sans aucun souci.
Chef, avec autorité, surtout sur sa troupe.
Bien sûr, surtout sur sa troupe. Mais surtout pour diffuser, quoi. Je pense que le rôle primordial qu'elle a eu, c'est de diffuser. Et si vous voulez, quand dans le monde arabe, vous voulez réunir plusieurs nationalités, quand même, on l'a appelé le ciment du monde arabe, et ça continue toujours aujourd'hui. Parce que si vous prenez un maghrébin et quelqu'un du Mashrek, qui peuvent se disputer sur beaucoup de choses, en général, elle reste un trait d'union. Et c'est pas mal d'avoir des traits d'union. Il en faudrait d'autres, évidemment. Mais c'est pas mal d'avoir des traits d'union, et elle continue de l'être aujourd'hui.
L'un et l'autre sont sensibles à son chant et épris d'elle. Et c'est pas pour rien qu'on l'a aussi surnommé le chant de l'espoir.
Et quand on relit ses chansons, alors l'ambivalence est formidable et très belle. Donc, puisqu'elle chante souvent au masculin. Donc, elle chante souvent, mais sa voix le permet aussi, quoi. Elle chante souvent. Donc, les hommes peuvent reprendre ses chants. Elle chante souvent cet amour humain divin. Donc, elle chante pour tous, quoi. Et chacun, comme je vous le disais, chacun peut y trouver ce qu'il veut.
Elle a des chefs-d'œuvre, notamment les ruines, enfin
les ruines.
Le titre de sa chanson, Les ruines.
Les ruines, qui est donc un chant d'amour ou un chant de guerre. Rends-moi ma liberté, dénoue-moi.
Là, elle est au fait de sa gloire, c'est aussi un moment de trouble politique. Elle est proche des chefs d'État, là où elle connaît le roi Hassan II, elle connaît Bourguiba.
Oui, elle accompagne, elle dit combien dans ce monde arabe il y a de convergence, combien donc, si vous voulez, la civilisation arabe rend les choses plus simples, aussi plus lisibles. Donc elle est étonnée, puisqu'elle ne les connaissait pas, elle est étonnée de la diffusion de la culture arabe et de la civilisation arabe. Donc elle se sent à l'aise, évidemment, au Liban, en Tunisie, toujours en poussant les femmes, toujours en Tunisie, évidemment, en appuyant les lois nouvelles qui ont existé aussi en Égypte. Évidemment, elle salue les droits qui sont donnés aux femmes, c'est-à-dire le droit de vote, l'égalité des droits. Et elle trouve que, évidemment, en aidant les femmes, on aide le monde et que la culture arabe est un vecteur d'unification, qu'elle sent bien Et donc juste qu'il faudrait s'en servir plus. Ce qui est toujours une belle leçon aujourd'hui. Parce que dans ces moments de politique et de troubles et de fanatisme, qu'est-ce qui marche bien dans le monde arabe? Ça reste quand même la culture.
Oui, et qu'est-ce l'art.
Et l'art. Donc si vous voulez, si on cherche des lumières, puisqu'on en cherche tous, on peut se dire qu'il y a ça aussi. Il y a ça, il y a ces lumières ou cet apprentissage du passé, quoi, qui nourrit aussi, qui n'ont pas pu disparaître et qu'on peut pas faire disparaître, quoi. Et que le monde arabo-musulman a été nourri de ces leçons d'ouverture, de tolérance, dans l'époque où il était grand, où il était fort. Donc, mais qu'aujourd'hui aussi, dans ces 30 troublés, la culture et l'art est quand même une source de réconfort.
Bien entendu. Alors, ce lit d'amitié avec Wassila Bourguiba,
bien sûr,
qui l'encourage justement à diffuser ses idées en faveur de l'art, de la musique, de la beauté et de la culture. Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec Isabelle Sayer Boudis, pour parler d'Om Kalthoum, l'étoile de l'Orient, l'astre d'Orient, comme on l'appelait aussi, pour évoquer justement cette grande figure, cette icône, à la fois de l'intelligence du cœur et de la beauté de l'âme et de la musique dont nous avons vraiment besoin. Et nous vous en savons gré d'y avoir consacré toutes ces biographies au pluriel. Petit à petit, elle
vieillit.
Elle avance dans l'âge.
Elle avance. Elle se rend compte que
elle se fatigue.
Que l'âge arrive. Elle qui disait toujours que quand elle voyait une montagne, elle avait envie de la grimper. Elle se rend compte que les jambes ne tiennent plus beaucoup, que les opérations se sentent, qu'elle se sent vieillissante. Mais encore un signe d'intelligence, elle se dit qu'elle peut encore puiser avec des auteurs ou des musiciens plus jeunes. Donc elle se tourne vers les plus jeunes pour régénérer, si vous voulez, son art. Elle se tourne vers les autres. Elle revient beaucoup aussi à sa terre, à son enfance, au Coran, à ce qu'il a...
Elle psalmodie le Coran.
Voilà quoi, elle est vieillissante, mais pas vraiment renonçante, quoi.
Oui, elle retourne à Mansoura,
le chef-lieu de son enfance, quoi. Évidemment, elle fait beaucoup pour son village.
Oui, parce qu'elle passe par des immeubles vétustes et elle tense en quelque sorte le gouverneur du coin et lui montre par la suite la partie un peu plus urbanisée.
Voilà,
et
donc elle aide à l'édification de bibliothèques, elle donne des bourses à des étudiants. Donc elle se tourne vers autre chose qui la nourrisse. Et puis son déclin son déclin peut-être physique va correspondre peut-être à l'autre star du monde arabe, c'est-à-dire à la mort de Nasser. Ils ont été extrêmement liés, ils se sont beaucoup servis. Elle a chanté toutes les chants de révolte. Hein. C'est elle qui a chanté l'hymne national, elle a chanté la nationalisation du canal de Suez. Ils se sont énormément épaulés. Qui s'est servi de l'autre? Ça.
Il l'appelait au téléphone.
Il l'appelait. Mais si vous voulez, évidemment, la disparition de Nasser marque un coup pour elle. Et elle sent que la vie changera, quoi.
Surtout qu'elle était en Union soviétique, elle était à Moscou. C'était le 28 septembre 1970.
Et donc, évidemment, elle voulait connaître ce monde soviétique, qui était quand même très, très proche et dont Nasser s'est beaucoup servi. Et elle rentre précipitamment pour participer à ces obsèques phénoménales. Et elle connaît aussi la relève, puisqu'elle connaît aussi celui qui était derrière Nasser et qui s'appelle Sadat. Donc, avec Sadat, commence une autre ère. Évidemment, elle, c'est un âge le plus vieillissant, mais elle se rend compte que les années flamboyantes, peut-être, ont eu un peu raison, qu'on revient à moins de nationalisme, à moins de fierté, qu'on se préoccupe plus de la vie quotidienne. Et elle prend conscience aussi, peut-être, de ça, quoi. Que les aspirations quotidiennes sont peut-être aussi importantes. Donc, elle reprend. Mais évidemment, le feu sacré a un peu disparu. Évidemment, elle aussi va commencer un peu sa descente avec toujours des témoignages d'admiration. Elle est adulée. On écrit des pièces de théâtre. On donne son prénom à des écoles. Les plus grands lui envoient des hommages. Mais elle sent un peu que aussi c'est un peu la fin d'une longue vie.
À ce sujet, quand elle est partie à Khartoum, on avait décidé de donner le prénom Kalsoum au nourrisson femelle qui naissait dans la semaine. Et quand elle est partie à Moscou, c'est le sous-secrétaire d'État à la culture qui vient l'accueillir en personne. Et elle était un peu surprise qu'elle eut aussi là-bas cette renommée.
Bien sûr, Naguib Mahfouz prénomme sa fille Oum Kalsoum. Donc elle a des témoignages d'amour ou d'adulation qu'elle mérite bien, évidemment, mais qu'elle reçoit. Mais elle sent aussi que c'est des décorations de déclin, quoi.
De
chant du cygne. Donc elle n'est pas dupe. Donc et c'est là où elle dit que ses racines, sa terre, sa foi lui servent énormément, quoi.
Et elle préside des associations de bienfaisance et d'aide pour
les plus démunis. Bien sûr. Elle se rend compte combien l'instruction, peut-être avec le féminisme, elle s'est beaucoup battue pour l'instruction, quoi. Donc elle compare évidemment à des prescriptions religieuses, l'instruction, le savoir,
l'acquisition du savoir, qui
est quand même la guerre qu'on doit gagner.
Le disait, c'est mon djihad à moi.
Bien sûr, qui est la vraie définition, quoi, en fait, hein, le vrai effort sur soi-même. Donc, elle participe beaucoup à ça parce qu'elle sent que, donc en fait, elle sent que c'est un pays neuf. Et c'est toujours des pays neufs, quoi, et donc elle sent les efforts, quoi. Et elle sent ce qu'on pourrait prendre de l'Occident, mais tout en gardant de l'Orient. Donc, avec ses manques, quoi, avec ce manque d'instruction, d'éducation, ces femmes qui sont quand même plus malmenées, donc qu'elle veut aider, qu'elle veut pousser, quoi.
Bon, elle arrive de son terme, elle est malade. Son mari, d'ailleurs, lui demande d'aller en Autriche, du côté de Salzbourg, pour une cure. Ça va la requinquer un peu, mais l'Égypte lui manquera.
Mais bien sûr. Donc, elle disait toujours, chaque fois qu'elle est partie à l'étranger, enfin, elle est partie donc ou aux États-Unis ou en Autriche, elle trouvera que tout ce vert, toutes ces grandes forêts vertes lui faisaient presque peur. Toute cette nourriture lui rappellera que sa nourriture qui lui manque, c'est sa nourriture à elle. Elle aime, elle trouve que c'est beau, mais elle se sent un peu dépaysée dans un monde trop vert, trop clean, donc l'Égypte lui manque.
Trop d'ordre,
trop de vert, trop de vaches. Donc évidemment, elle rêve à son désert, à ses vaches un peu décharnées. Et en fait, elle rêve d'Égypte, quoi. Son rêve est égyptien.
Le jour de ses obsèques, il va y avoir un cortège d'un kilomètre et demi et trois heures.
Donc évidemment, son agonie est suivie par une foule, quoi. L'hôpital est pris et est encerclé. La radio se met déjà en pré-deuil. C'est un ministre qui annonce son décès. Et le jour de son enterrement, la foule est supérieure à celui de Nasser. Et c'est une foule qui l'accompagne, qui la porte, qui la pleure, qui la chante. Et qui donne bien la mesure de ce que cette femme a été.
On déroge même à une prescription religieuse islamique qui consiste à inhumer au plus vite les défunts. Et elle, on la laisse 2 jours.
La dépouille mortelle reste deux jours.
Bien sûr.
Et elle est. Y a des images hallucinantes où son cercueil est comme un bateau au-dessus des têtes de la foule qui la porte. Et toujours aujourd'hui, son mausolée à la Cité des Morts est vénéré. Mais évidemment, plus que ça, donc elle est quelque part, on peut dire qu'elle continue, puisque elle est écoutée, elle est reprise, elle reste muse et source d'inspiration. Et quelque part guide pour ce monde malmené, mais où il y a toujours ces lumières.
Nous approchons du terme de l'émission. Quel est finalement son message pour maintenant, à n'est plus de ce monde? C'est que quand on laisse place à l'amour, à la beauté, encore une fois, à la musique, ça transporte et ça flatte.
Oui, ses leçons de vie sont absolument formidables, quoi. C'est le son de vie, quoi. Donc, elle a été nourrie par l'école la plus religieuse qui soit. Elle s'en est émancipée en se servant des techniques sans jamais renier ni sa foi, ni sa pudeur, ni son statut. Donc elle a servi son pays, elle a servi la cause des femmes, elle a servi la musique, elle a fait rayonner son pays. C'est un bel exemple, quoi.
Profondément croyante, disons que ma voix c'est un don de Dieu et un don on le préserve, on n'y touche pas et on en rend grâce.
Bien sûr. Ben, c'est l'icône aujourd'hui, mais toujours éclairante. Toujours éclairante, parce que je pense toujours que aujourd'hui on peut se référer à ces guerres qu'elle a menées et qu'elle a vaincues sans jamais se renier.
Alors, merci infiniment, Isabelle Sayah-Boudis.
Merci à vous.
Nous avons parlé d'Oum Kalsoum, l'étoile de l'Orient, aux éditions du Rocher pour l'un et pour une édition, aux éditions Orient. Vous êtes vous-même éditrice, auteur, Oum Kalsoum Forever. Voilà, vous nous pardonnez l'anglicisme, ça je le dis aux auditeurs.
Donc pour toujours.
Et pour toujours. C'était question d'islam aujourd'hui et nous avons reçu Isabelle Sayah-Boudis pour parler d'Oum Kalsoum. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site de franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assumée et assurée aujourd'hui par Jeanne Richard Dufour. Et la réalisation, c'est toujours avec l'ami Franck Lilin.